Vous êtes sur le 106.8, Radio Grand Ciel Chartres, du côté de la Pointe aux Âmes, une émission écrite et présentée par Robert Giroux. À la prise de son, Simon Martin. Et à vous toutes et tous, un grand bonjour. Le musicien est condamné à s'élever, à évoluer, chaque jour. Il est censé ne rien produire de banal. Il doit se transfigurer. Sa musique est comme une intercession, le pont qu'il ferait passer d'un monde à l'autre. Elle est comme son échelle de Jacob, un signe que Dieu lui envoie et qu'il renvoie à Dieu en s'élevant. Dieu, ou bien ce qui fera Dieu, ou une notion approchante pour lui s'il n'est pas croyant. N'oublions personne. Tous les musiciens au monde, en tout cas, ont obligation morale à cette élévation. Il n'existe pas dans une vie de musicien un seul instant, un jour où il peut dire « Voilà, je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais, je peux me reposer maintenant ». On est musicien jusqu'à son dernier souffle, jusqu'au terme physique de son existence. Musicien donc en recherche, musicien donc chercheur. Or, on ne peut rien dire expressément en musique, rien d'utile, rien de physiquement précis, concret, exact. On ne peut prononcer qu'une représentation d'un suprême, de ce qui est en nous de secret et de ce qui dans le monde est au-dessus de nous, ce à quoi nous ne voyons aucune explication ou rationalisation plausible. Or, passer sa vie de l'autre côté du monde visible, à cesse qu'agacer les neurones et l'entendement comme le fait le musicien, peut être assez éprouvant, figurez-vous. Et l'esprit alors peut parfois montrer quelques faiblesses. Il y a, à un moment donné, un effet de nos limites, car nous en avons tous, notre condition nous y force. Alors peut nous prendre l'envie de changer, et cela jusqu'à changer les instruments eux-mêmes. Ce que l'on nomma la scordatura au XVIe siècle fut peut-être le premier signe de tout cela. La scordatura, ou l'art de changer l'accord d'un instrument, non pas selon l'usage ou la norme, mais selon soi, et en fonction de ce qu'exigera une musique particulière. La musique de luth au XVIe siècle en répandra l'usage. Les violonistes des XVIIe et XVIIIe siècles l'adopteront à leur tour. Les violoncellistes d'aujourd'hui connaissent tous la cinquième suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, qui se joue en réaccordant l'instrument. La musique de Bieber l'a utilisée abondamment. En Allemagne, cette technique est connue dès le XVIIe siècle, sous le nom de Verstimmung. En France, Michel Corrette lui donnera le nom de « jeu à cordes ravalées ». Sur une guitare d'aujourd'hui, on peut jouer les suites pour luth de Jean-Sébastien Bach en abaissant la corde de mi grave en ré ou en do, ou bien en jouant sur un accord ouvert. Sans oublier la musique traditionnelle, où on joue avec l'accordage de façon naturelle et intensive. Non seulement le procédé régénère la curiosité et l'éveil du musicien, et le provoque, lui interdit de se reposer sur des habitudes, mais, et c'est ce qui en fait toute la valeur, il donne d'autres couleurs, tonalités, registres à l'instrument, pour au final faire naître une musique spécifique de par son équilibre tonal. Il y a donc pensée, écriture musicale et projection. L'inverse donc du dilettantisme, du bricolage ou du trompe-l'ennui. Puis avec le XXe siècle commencera une période où le piano, alors instrument roi, sera traité sans l'habituelle déférence et quasi ramené à la vie sauvage sous l'impulsion par exemple d'Henry Cowell, écrivant des pièces magistrales dans lesquelles le pianiste est invité à se lever et à prendre possession de l'instrument, à frapper le clavier avec les coudes, avec les poings, à bloquer ses résonances à l'intérieur du ventre du piano, avec le plat de la main, à jouer les accords directement avec les doigts, les ongles sur les cordes, toujours penché dans le ventre de la bête. Ne pas se fier aux apparences ici, il sortira de tout cela une passionnante littérature pour le piano. Survint ensuite ce que l'on nomma les instruments préparés. Sans doute avez-vous déjà entendu ce terme avec les fameuses sonates et interludes pour piano préparé de John Cage. Alors écoutons dans un premier temps la musique de Noël Lee, interprétée par lui-même. Nous connaissons Noël Lee en France, entre autres pour ses splendides interprétations de Claude Debussy. Mais il est aussi un compositeur héritier direct de Henry Cowell, mais aussi d'Aaron Copland, de Charles Ives, de Samuel Barber ou encore Elliot Carter. Et sa musique est très, très personnelle. Je l'ai choisi aujourd'hui car il utilise toujours des techniques préconisées par Cowell. Il les met au service de sa pensée musicale et je le trouve en cela rien moins qu'extraordinaire. Qu'il me pardonne, je ne puis passer son « Using Sonorous Effects » dans son entier. J'ai donc commis l'impardonnable, j'ai fait une coupure. Je serai châtié, je sais, je vais mourir, je sais. Écoutons donc dans un premier temps Noël Lee, puis ensuite John Cage dans la 12e sonate pour piano préparé.
Thank you.
préparer. Une jeune fille ou un jeune garçon se prépare pour une soirée, un bal. On prépare la maison pour recevoir des invités. On prépare la table pour le repas. On prépare ses affaires pour la rentrée des classes ou pour partir en vacances. Nous choisissons donc ce que le psy nommera un sujet et nous l'apprêtons pour le soumettre à une condition nouvelle pour lui. Le bal, les vacances, les études, un repas, une soirée entre amis. Nous le rendons ainsi propre à une nouvelle application de ce qu'il est. Et c'est exactement ce qui se produit avec un instrument préparé. Seront modifiées la longueur de sa note, sa résonance, son attaque, son volume particulier, son caractère. Bref, toutes les données que nous rattachons habituellement à la personnalité sonore de tel ou tel instrument. Il fallut au départ une journée entière, puis une demi-journée, puis 4 heures et enfin 3 heures aujourd'hui pour préparer le piano selon John Cage, qui explicitait pourtant tout, notait point par point le détail scrupuleux de l'installation d'un piano propre à jouer ses sonates et interludes. Aujourd'hui encore, atteindre la perfection dans la mise en œuvre est des plus aléatoires, et les exécutions de cette musique peuvent encore varier drastiquement d'un interprète à l'autre. Depuis, j'ai vu des balles de ping-pong dans des pianos. Des vis, des chaînes, des clous, des monceaux de toile, des journaux, des chaussures et à peu près l'abécédaire complet des rayons bricolage du bazar de l'hôtel de ville. Ce qui peut ici vous sembler fantaisiste ne doit pourtant pas vous faire faire fausse route. Il n'est ici question que de musique. Une balle de ping-pong sur une corde de piano a le poids et la légèreté idéale pour amortir l'attaque d'une note. Elle l'amortit et la fractionne en plus, en rebondissant. Elle feutre un peu ses résonances, puis de nouveau libère brièvement la corde dans une sorte d'effet de percussion accordée et permet par ses rebonds successifs qu'elle retentisse plusieurs fois et différente à chaque fois. Le fait que la balle soit ronde, creuse et d'une matière aussi douce que réactive fait que la note est partiellement absorbée, mais elle ne s'éteint pas. Elle est toujours perceptible et conserve pour elle-même ses facultés vibratoires. Si l'on joue toujours bel et bien du piano, le piano lui-même, en revanche, libérera un arrière-plan nouveau, révélera une espèce d'envers de lui-même, une seconde nature pour le coup bien délicate à appréhender et à sculpter. Un instrument dit préparé est toujours complexe à manier, à solliciter, à faire chanter. On joue plus avec l'instrument que sur lui. En musique, il convient également de ne surtout pas mésestimer l'électricité. Si vous êtes un jour au musée d'art moderne à Paris, passez absolument voir la fée électricité, salle entière, que dis-je, cathédrale dédiée à l'électricité et que peignit l'extraordinaire Raoul Dufy. Le génie humain n'a jamais mieux été célébré qu'ici. Électricité, donc. La guitare électrique est un monde de résonance et de volume tout à fait à part de la guitare pure. Monde d'ombre et de clarté, de limpidité et d'attaque, de rondeur et d'acidité, de notes longues comme le jour, ou bien brèves comme un coup de trique. La guitare électrique, c'est le contraste exacerbé. C'est dit, bientôt une émission sur cet instrument. Les résonances particulières de cet instrument se prêtent à merveille à la préparation. Elles l'appellent presque, tant l'électricité rend la corde réactive et doublement résonante, comme elle le fait aussi pour le bois. Et tant aussi les micros d'une guitare électrique recèlent d'incroyables possibilités. Ils ont une vie propre et une façon tout à fait passionnante de réagir aux moindres variations et nuances. Même leur expression de la saturation, du rejet, est passionnante. Ils sont soniquement d'une grande richesse et d'une musicalité toujours surprenante. Beaucoup de choses ont été tentées sur l'instrument, mais on est loin d'avoir encore parfaitement cerné la chose, loin de tout dominer, ou d'avoir fait dire à cet instrument tout ce qu'il sait et peut dire. Je vous propose d'écouter à présent Fred Frith, chercheur compulsif et multirécidiviste de l'expérimentation. Il est une référence presque classique désormais. Mais ce qu'il distingue, je crois, est qu'il n'est jamais oublieux du temps musical, de la construction de la phrase, et qu'il témoigne d'un solide sens des structures. Throw the bolt, Fred Frith. Thank you. 20 et nous envahit l'électronique, qui réussit le prodige de nous faire croire qu'elle avait tout inventé, alors qu'elle est essentiellement un bout à bout de savoirs et techniques déjà existantes, et parfois à des distances impressionnantes dans le temps. Et en se substituant à la fois à nos besoins et à nos désirs, pour les remplacer en nous par l'urgence d'avoir le nouveau téléphone dont tout le monde parle. Ne vous y trompez pas, j'aime autant que tout un chacun ces fantastiques objets. Je me refuse simplement à leur donner un sens ou une importance qu'ils n'ont pas. Lorsque journellement nous utilisons l'électronique, nous célébrons l'histoire et le génie humain, comme le faisait Raoul Dufy, quelques noms peut-être, Charles Bourseul, Philip Reis, James Fold, Antonio Meucci, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Heinrich Rudolf Hertz, Eugène Ducreté, Marconi en 1901, De Forest, la télégraphie sans fil, Madame la Tour Eiffel, Orson Welles, les concerts Radiola, la Société française radioélectrique, Radio Londres et Charles de Gaulle. Que font-ils ici, vous demandez-vous ? Une invention n'est grande, selon moi, que parce qu'elle nous aura sauvés un jour. Plus loin dans le temps, Blaise Pascal et sa Pascaline, Jacquard, oui, le Joseph-Marie Jacquard, du métier à tisser, Charles Babbage, IBM France, Jacques Perret, professeur de lettres, Howard Hayken, Leonardo Torres Quevedo, Thomas Watson, Eddie Lamar, George Antheil et le prodigieux Alan Turing, et des milliers d'autres encore. Le présent, avec ses modes, crée l'illusion que nous sommes les premiers, les seuls, que l'on est entre soi, entre initiés dans un monde nouveau, d'où seront rejetés à jamais ceux qui n'y adhéreront pas. Comme ces pauvres airs, malades d'un complot qu'ils voient partout, parlent du monde d'au-dehors pour décrire ce qui n'est pas eux-mêmes. Cela s'appelle une pathologie. Les concepteurs actuels du numérique ont mon admiration et mon absolu respect. Mais si j'accorde un seul instant à leur trouvaille un intérêt que je dois plutôt aux choses de l'art, par exemple, je gâche alors mon temps, mes perceptions, ma sensibilité et le bon usage de mon discernement. C'est l'art qui nous fournit le moyen de requalifier l'électronique, mais aussi de prouver son adaptabilité, son élasticité. Et c'est ici, précisément, que l'électronique se révèle passionnante, dans sa complicité immédiate avec nous et ce que nous concevons. Nous ne voyons pas l'électronique comme un moyen d'être qui nous ne sommes pas et qui nous ne serons jamais. Ça serait s'égarer et à terme s'assurer d'un joli naufrage personnel et collectif. L'électronique permet aux musiciens de s'affranchir des principes et fonctionnalités reconnues de l'instrument qu'il a entre les mains. Et ça n'est déjà pas si mal. On peut alors changer une note en un bloc en un bruit inconnu, un bruit en pur impact sonore. Nous pouvons contrôler les durées, les étendues, leur insuffler vibrations, modulations, mouvements ondulatoires, doubler, tripler, multiplier à l'infini un signal, une donnée. Mais il est toujours question de musique. Même si la pure physique des sons est ce que nous nommons l'acoustique, sont d'une présence accrue, même si la présence de machines, d'objets, est un défi face à l'impérative spiritualité de la musique. Écoutons à présent Isabelle Olivier à la harpe. Dans un premier temps, la harpe sera rehaussée d'électronique. C'est Olivier Sens qui suit à la trace la harpe d'Isabelle Olivier. Pistage tout en finesse, on a presque la sensation d'un interprète traduisant chaque son dans cette autre langue qu'est l'électronique. Dans le second thème, électronique toujours, mais cette fois la harpe est préparée. Nous écoutons donc Rettinger, suivi de Interlude, composé et interprété par l'extraordinaire Isabelle Olivier. Thank you. en musique, tout comme en médecine, le chercheur apportera un jour la résolution de ce qui nous limite. Ou bien découvrant le remède à la maladie qui avait emporté vos parents, mettre un terme à la tyrannie d'un mal. Si mon émission a pu vous convaincre qu'un chercheur, quel qu'il soit, n'est pas une tête folle, un allumé en surchauffe perpétuelle, alors je suis exaucé au-delà de mes espérances. Merci à Simon Martin, notre ingénieur du son émeritus, et à vous tous pour votre écoute et votre fidélité à la station. Quittons-nous avec Hilary Hahn et Auschka. Bounce, bounce.